Ah ouais, super.
Il fait pas un peu chaud là, non?
Oh non, j'ai froid.
Attends, mais pourquoi?
L'émission Super Tempête s'apprête à commencer. Il sera question de relations affectives et de sexualité, concoctées par l'association La Panoplie, ce contenu explicite et pédagogique est notamment adapté aux adolescents. Toutefois, c'est le moment d'éloigner les oreilles trop jeunes ou bien de changer d'émission si tu n'as pas envie d'entendre tout ceci.
Ah non, merci.
Ceci dit, chers auditeurs, bienvenue.
C'est la tempête. Ah ouais, c'est super.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante.
Non, non, stop, stop, ça va pas du tout, là.
Bienvenue à Super Tempête, une émission qui vous éclaire
sur les thèmes des sexualités et des relations.
Laisse-moi me renseigner et je reviens vers toi. Okay.
Avec une approche féministe. Jouir, s'abstenir, choisir.
Continue.
Oh, waouh.
Ce que j'aime, c'est les coudes.
Super Tempête, c'est ton phare dans la tempête.
Bienvenue sur l'émission Super Tempête sur Radio Saint-Ferréol 94.2. C'est une émission qui sera présentée par Merle, par Laure et par moi, Matt.
Bonjour.
Bonjour.
Et on fait partie de la Panoplie. La Panoplie, c'est une asso crétoise d'éducation populaire sur les thèmes des sexualités et des relations avec une approche féministe. Et c'est une toute jeune asso, ça a moins d'un an. Dans cette émission, on a envie de parler de relations affectives, de sexualité, et on aimerait bien en parler avec le moins de tabous et de gênes possible. Parce que on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gênes et de tabous autour de ces sujets. Et du coup, on va tâcher d'en parler le plus librement possible. Aussi, on avait envie de dire qu'on n'est pas des experts, des expertes. Voilà, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup, sur lesquels on s'est renseignés. Mais on n'est pas experts et expertes.
Voilà, c'est une émission. On a aussi envie de faire entendre d'autres voix que les nôtres. Donc, vous allez entendre des micro-trottoirs. Et puis on a envie aussi d'avoir un lien avec des gens, donc c'est aussi une émission où on répond à des questions qu'on nous envoie. Et pour le thème de cette première émission, Laure ?
Oui, le thème de cette première émission, c'est autour des normes et des idées reçues. Et parce que ça nous semblait assez important de commencer par la base de ces espèces de mythes qu'on a envie de faire tomber. On a envie de donner des infos, des chiffres, un peu des définitions de base. Et aussi de réaliser en quoi la norme a un impact en fait sur notre façon de relationner.
Alors pour commencer, on vous propose une section qu'on appelle la boîte à questions.
Ouais, et cette boîte à questions, on a pu la faire grâce à Anaïs Luthereau, qui est prof d'anglais au collège Revezlon et qui est aussi référente égalité de genre. Et elle nous a bien aidés. Merci beaucoup, Anaïs, qui donc a mis une boîte au CDI, une boîte pour récolter des questions anonymes. Et elle a prévenu ses élèves que le thème de notre émission, c'était sur les normes. Donc, on a récolté une dizaine de questions. Merci aux collégiens et collégiennes de s'être prêtés au jeu. Les questions étaient hyper intéressantes. Et on ne pourra pas tout traiter dans l'émission parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais on fera une réponse écrite qu'on fera passer au collège et qu'on mettra aussi sur la page de l'émission, sur la page du podcast, pour que tout le monde ait accès à ces réponses écrites.
Alors, la première question à laquelle on va répondre, c'est en fait deux questions en une. Nous avons choisi de répondre à « Pourquoi les garçons n'ont pas leurs règles ?» et à « Pourquoi les filles n'ont pas de testicules ?»
Et pour répondre à cette question, je vais déjà dire que en fait, il y a plein de garçons qui ont leurs règles et il y a plein de filles qui ont des testicules. Et pour ça, je vais vous parler de transidentité. Et du coup, vous définir qu'est-ce que c'est une personne trans. Une personne trans, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. En gros, quand un bébé naît, si ce bébé a une vulve, on dit « Ah, c'est une fille !» Et si le bébé a un pénis, on dit « Ah, c'est un garçon !» Sauf que le genre, c'est pas ça. Le genre, c'est quelque chose qu'on se définit pour soi-même. C'est comment on se sent, comment on se ressent dans le genre. Et du coup, ça n'a rien à voir avec nos parties génitales. Donc il y a des garçons qui ont des vulves et qui ont leurs règles et des filles qui ont des testicules. Peut-être dans la question il y avait aussi un truc de à quoi ça sert les règles et à quoi ça sert les testicules. Du coup je vais donner une petite explication parce que j'ai l'impression que dans ces questions il y avait peut-être un peu ça. Et ben, les testicules et les règles, ça sert à la procréation, c'est-à-dire à faire des bébés. Les testicules, ça sert à fabriquer des spermatozoïdes. Et puis, le spermatozoïde qui rencontre un ovule, ça va créer un œuf. Et après, du coup, les règles, ça sert à recevoir cet œuf. En fait, les règles, c'est à l'intérieur de l'utérus, les parois internes s'épaississent pour accueillir un œuf fécondé. Mais s'il n'y a pas d'œuf fécondé qui arrive, et ben, dans ce cas, l'utérus va éjecter cette paroi qui s'est épaissie à travers le vagin. Et c'est ça les règles, en fait. Donc c'est un mélange de sang et de petits morceaux de cette paroi un peu épaissie qui va s'évacuer pour pouvoir en faire une toute neuve, pour pouvoir accueillir éventuellement un œuf 28 jours plus tard. Je dis 28 jours plus tard, mais c'est une moyenne. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Voilà ce que je pourrais répondre.
Et pour une info vocabulaire, si vous ne le savez pas, l'inverse de transgenre, c'est cisgenre, qu'on abrévie souvent en cis. Donc si vous êtes une personne qui vous reconnaissez dans le genre qui vous a été attribué à la naissance, vous pouvez dire « Ah, je suis une personne cis ». Voilà, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant très très longtemps, les transidentités. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, il y a un super site d'info là-dessus qui s'appelle Parlons Sexualité. L'adresse, c'est Parlons, parlons-sexualité au pluriel.fr. Voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour.
Et je rajoute que sur ce site, il y a aussi plein d'autres choses sur les sexualités. Voilà, il y a des rubriques sur les transidentités, mais il y a aussi plein d'autres infos. N'hésitez pas à y aller.
Et bien voilà, on est rentré dans le vif du sujet. Et puis on va faire une petite pause musicale de conséquence. On vous propose d'écouter Let's Talk About Sex de Salt and Pepper, une chanson de 1990, retour vers le passé.
I don't think we should talk about this. Come on, why not? People might misunderstand what we're trying to say, you know? But that's a part of life.
Now to the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't decoy, avoid, or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now just talk about sex on the radio and video show.
Many will know
anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was, and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat?
I doubt it.
All right then, come on, spin.
Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Hot to try, make any man's eyes pop. She use what she got to get whatever she don't got. Fellas drew like fools, but then again, they're only human. This chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was dope. Dope.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be.
What we have
have here is subject to controversy. A three-letter word some regard as a curse. See, he may fiend and have a dream because he's seen a teen in tight jeans. What makes him react like that is biological. The scheme on getting in those jeans is diabolical. But of course he does it, and she gives him rap. And before you even know it, they jump in the sack. As a matter of fact, sometimes it's like that. But anyway, ready or not, here he comes. And like a dumb son of a gun, oops, he forgot the condoms.
Hey!
Oh well, you say, what the hell, it's chill. I won't get got, I'm on the pill. Until the sores pours and stuff pours down your drawers.
Ew.
He gave it to you and now it's all yours.
Yours.
Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about
Alors merci pour cette première pause musicale un peu old school. Vous êtes toujours sur Radio Saint-Féréol, la radio locale et associative de Cray, sur le 94.2 ou alors en streaming sur le site de Radio Saint-Féréol. Vous êtes toujours dans l'émission Super Tempête et pour continuer notre immersion dans les normes autour de la sexualité et des relations, on va écouter un micro-trottoir. Donc avec Merle, nous sommes allés poser des questions dans les rues de Cray. On ne s'est pas aventuré très loin pour cette première, mais on a été au kiosque, on a été à la gare, dans les rues un peu, bon, le centre-ville quoi, de Cray. On leur a posé la question de quelles normes et outils reçus ils avaient sur la sexualité et les relations. Et voici les réponses qui sont parties un peu dans tous les sens. On vous laisse écouter.
Donc voilà, notre première émission, le thème c'est les normes et les idées reçues. À quoi ça sert les normes, pourquoi on en a, mais aussi en quoi elles nous limitent.
Ah ouais, moi j'en ai une. Bah, on pense toujours que c'est au mec de faire le premier pas, alors que finalement, bah, en fait, non, c'est des fois la femme. C'est pas toujours au mec de faire le premier pas. Ouais, même toi, tu t'es fait DM par des filles et tout.
DM, tu peux préciser ?
Ah, DM, c'est envoyer un message, envoyer un message en premier.
S'il n'y avait pas cette norme, je serais peut-être en couple un jour.
Nous, à notre époque, on ne fréquentait pas, mais si on commençait à fréquenter un garçon, c'était pour le mariage et pour la vie. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une évolution énorme. Voilà. Moi, je ne suis pas tout à fait pour justement cette libération sexuelle des jeunes. Mais bon, il faut aller avec son époque.
J'entendais beaucoup de gens dire la sodomie, c'est pas bien, voilà. Bah, je ne l'ai pas fait personnellement, mais du coup, je peux pas dire que c'est pas bien. Et donc, quand on m'a dit ça, je dis bah pourquoi. Et on m'a répondu bah parce que c'est sale, voilà. Et j'ai pas compris, du coup, voilà. Je vois pas pourquoi c'est plus sale d'aller dans un endroit que dans un autre. Voilà, c'est tout.
Je suis pour l'avortement. Parce que je pense que il faut quand même que les femmes désirent l'enfant qu'elles portent. Et je serais pour une contraception masculine.
C'est super bien parce que moi-même qui suis en couple, et ben justement, je me suis rendu compte qu'en fait, pendant des mois, tu pouvais ne pas avoir de relation sexuelle, que c'était vraiment.
Mais alors, ça n'avait rien à voir avec l'amour en fait.
La société ou le monde vous a fait croire que ça devait se passer d'une manière. Et vous avez découvert qu'en fait, on pouvait faire autrement.
Alors, moi, je ne suis pas à l'âge où j'ai découvert la sexualité grâce au film X. C'était très caché, les parents n'en parlaient pas. Il a fallu que je fasse tomber mon chocolat dans mon lit pour que ma mère me demande si j'avais mes règles.
Okay. Où est-ce qu'on peut se renseigner ? Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est à côté de l'hôpital, je crois. Ou même bah, carrément à l'hôpital.
On n'y va pas trop. Parce qu'on nous le dit une fois en début d'année, là, quand on distribue toutes les brochures, allez-y, vous n'oubliez pas qu'il y a ça. Mais c'est un peu comme les monuments aux morts, quoi. On fait une fois par an pour pas oublier, mais sinon, c'est pas très. Voilà.
Un enfant peut très vite confondre le X avec la sexualité. La sexualité, c'est moins violent quand même. Hein, c'est plus consenti aussi. Tant qu'à faire, c'est beaucoup mieux.
Hein, et bon, en même temps, il y a d'autres bons côtés. Hein. Ça, ça peut les protéger des prêtres. Alors les prêtres, là, c'est carrément un préjugé. Hein, mais enfin, non, pas tant que ça. Hein, je veux dire, puisque les affaires récentes nous ont prouvé que non, c'était pas que un préjugé.
Puis bon, c'est aussi un peu malaisant. On dit qu'il faut pas hésiter, que les infirmières du lycée, enfin, toi, sont là pour ça, mais bon. Aborder ce genre de sujet avec une infirmière, c'est quand même voilà, c'est très personnel, on va la croiser tous les jours, on n'a pas forcément envie qu'elle sache notre vie intime, quoi. Donc voilà. Après, entre amis, on parle beaucoup, hein. On ouais. parle de tout.
Bah, déjà, il y a les camarades, les copains, quoi.
Ouais, les potes.
Et après, ça peut dépendre des parents aussi, mais même si j'avoue que c'est pas simple, hein.
Bah, sexuellement, on pense toujours que c'est l'homme qui a toujours envie sexuellement. Ça, c'est une idée reçue. Des fois, la femme, elle peut aussi avoir envie d'une relation sexuelle, alors que bah, l'homme n'en a pas forcément envie, et inversement. Mais on pense toujours que c'est l'homme qui a toujours envie et que la femme se sente parfois obligée. C'est vrai, mais des fois, ça peut être le cas contraire et c'est pas trop répandu, je pense.
Ça met un peu la pression, quoi, en plus, hein, de se dire à tout le monde qui est toujours dans la performance, de « ouais, moi, c'est trop bien, je suis trop excitée avec mon copain ou avec ma copine », c'est « ouais, mais... » Ah ouais, donc moi, pas du tout en ce moment, parce que, bon, bah, j'ai des soucis, peut-être, je sais pas, enfin...
Pour moi, ce qui est important, c'est que l'amour se soit clairement consenti,
ouais.
Que ce soit deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, etc., et qu'il y ait une différence d'âge, qu'il n'y en ait pas, c'est pas... Il n'y a aucun souci, tant qu'on respecte l'enfance. On touche pas aux gosses, tout comme on touche pas à une femme quand elle a dit non. Un homme, d'ailleurs, aussi, parce que il y en a qui se font dézinguer aussi.
C'est toujours le mec populaire, tout le monde crush sur lui, et puis le petit mec oublié au fond de la classe, la plante verte, personne s'y intéresse, voilà.
Alors ma petite fille va avoir 15 ans, je suis pas sûre qu'elle soit apte à se protéger et à dire non dans certaines situations. Peut-être que c'est un peu tôt, et en même temps, 3 ans après, ils sont majeurs alors.
Là maintenant, si j'ai quelqu'un qui vient me dire je suis en couple, ou je l'ai fait, ou je sais pas quoi, pour moi c'est... y a rien de choquant, quoi.
Et je n'osais pas faire certaines choses parce que pour moi c'était que les salopes. Voilà, j'avais toujours peur d'aller trop loin, d'être trop libre. Parce que j'avais peur qu'on me classifie, effectivement. Je veux dire, alors qu'en même temps, à partir du moment où on gêne pas son voisin, je vois pas où est le souci. Hein, je veux dire,
tant que la personne est respectueuse avec toi, ça suffit.
Voilà, c'est ça. Si tu l'aimes et qu'elle est respectueuse, c'est bien pour moi. Si une fille va aller vers un garçon pour lui dire comme quoi bah, genre elle l'aime, bah, le garçon va plus facilement la recaler que si c'est un garçon qui va voir une fille. Ouais, enfin, je sais pas comment expliquer, ouais. C'est...
Ah oui. quand on se fait prendre un râteau ou quelque chose, que le garçon, par exemple, nous recale, on a peur pendant 3 semaines après de se faire juger, ou on culpabilise, on se dit j'aurais jamais dû lui dire, et en fait rester dans ses fantasmes pendant... pendant 3 ans, parce que moi je connais beaucoup de meufs hein, qui fantasment sur le même mec depuis beaucoup beaucoup de temps.
Mais avec ma belle-sœur, on avait parlé d'une histoire de pyramide, un peu. C'est-à-dire que la base dans une relation, que ce soit sexuelle ou amicale ou ce qu'on veut, la base de la pyramide, moi je trouvais que c'était la confiance à la personne. Et que bah, quand t'es dans une relation amoureuse, la sexualité c'est le sommet de la pyramide, quoi. Parce qu'il y a tout le reste avant, je trouve. Et que c'est un peu genre l'apothéose de la relation. Et que c'est pas parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle qu'il n'y a pas d'amour, que la relation ne vaut rien, que en tant que femme ou en tant qu'homme, tu n'es qu'un manque rien. C'est pas grave, quoi. Tu peux pas te toucher pendant 2 ans, ne pas faire l'amour, c'est pas grave du tout. Voilà, très bien.
Ouais. C'est bien qu'on en parle, en tout cas.
Et voilà, c'était notre premier micro-trottoir de Super Tempête.
Bah, ça me donne envie de réagir sur un point. Je sais pas, il y a une personne qui a parlé de l'hôpital de Cré. J'avais envie de dire que oui, en effet, c'est un lieu ressource où on peut aller poser des questions. Il y a ce qu'on appelle une conseillère conjugale et familiale au centre de santé sexuelle de l'hôpital de Cré. Donc c'est dans l'hôpital. Et voilà, elle est là pour accueillir toute personne qui aurait des questions sur... sa sexualité ou sa vie affective, relationnelle. Donc, faut pas hésiter à aller la voir, elle est super. Aussi, dans l'hôpital de Cré, vous pouvez faire des dépistages anonymes et gratuits. Voilà.
Pratique.
Ouais, il y a une personne qui évoque le porno aussi. Bah, c'est sûr que quand on pense aux normes, on pense immédiatement à la pornographie. C'est quand même un énorme vecteur de transmission d'idées reçues aujourd'hui sur le thème de la sexualité pour nous, quoi. Alors, bon, on ne l'a pas tant creusé dans cette émission parce qu'en fait, c'est justement un tellement gros sujet qu'on s'est dit qu'il fallait faire une émission sur le thème du porno. Donc, on en reparlera plus tard, mais oui, c'est évidemment quelque chose à citer quand on parle d'idées reçues, quoi.
Et oui, trop bien. Vivement cette émission. Et moi, je me suis dit, en écoutant ces personnes parler, que mine de rien, il y avait ces normes-là qui empêchaient quand même de passer à l'action, notamment pour les adolescentes ou même une autre personne qu'on entend, par peur de passer pour une salope ou le fait qu'il faut attendre d'être ce cliché d'être cueilli, quoi. Et un peu, voilà, 36-15, passivité, bonjour. Ça m'a paru assez flagrant, là. Et quand même, il y a une mention au cliché sur les prêtres. Et en fait, la personne se ravise. Et du coup, ça m'a donné envie de venir juste repréciser les derniers chiffres par rapport à ça, qui datent d'il n'y a pas très longtemps. En mars 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église en France estimait au moins à environ 2,8% de prêtres et religieux qui ont commis des agressions sexuelles ou des viols, sur environ 216 000 victimes majeures et vivantes au moment de la rédaction du rapport. Voilà, c'était juste un petit topo, comme quoi c'était quand même assez sourcé comme idée reçue. Voilà, voilà. Bon, je propose qu'on passe, on revienne à la boîte à questions, parce qu'on a répondu qu'à une première double question. Et voilà, donc Mathilde, je vais t'envoyer la deuxième question officielle que tu as reçue. Ah oui, voilà, c'est pourquoi j'ai un petit zizi.
Et oui, merci pour cette question. Ben déjà, vu que c'est une question qui est arrivée dans la boîte à questions qui était au collège, donc c'est une personne adolescente qui a posé cette question, je voudrais dire que ben, déjà habituellement, le pénis continue à grandir jusqu'à environ 15 ans et demi, ça c'est la moyenne, mais il y a certaines personnes chez qui ça continue à grandir jusqu'à 20 ans. Donc voilà, peut-être la taille va être modifiée d'ici l'âge adulte. Et ça m'a posé question de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie pour les personnes qui ont un pénis d'avoir un grand pénis. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une norme autour de ça. Et du coup, je me dis, ah, peut-être que c'est dans l'idée de satisfaire son ou sa partenaire. Et du coup, j'avais envie de donner des chiffres parce qu'on est sur l'émission des normes. Alors,
balance les chiffres.
Et donc ces chiffres disent qu'à 95%, les hommes cis disent jouir habituellement lorsqu'ils ont un rapport sexuel, contre 65% des femmes cis hétérosexuelles et 86% des femmes cis lesbiennes. J'ai eu envie de donner ce chiffre parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une grosse différence entre ben, les femmes lesbiennes qui disent jouir habituellement dans leur rapport sexuel, qui jouissent habituellement donc à 86% contre 65% des femmes cis hétéros. Et ben, dans ces chiffres, du coup, on voit bien que dans les pratiques de ces femmes lesbiennes, il n'y a pas de pénis en jeu. Voilà, j'avais envie de rappeler que peut-être la taille du pénis n'a pas de lien direct avec le fait de donner du plaisir à son ou sa partenaire. Et puis aussi, j'avais envie de dire qu'il y a plusieurs manières de pratiquer la pénétration. On peut la pratiquer avec un pénis, mais on peut aussi la pratiquer avec ses doigts. On peut la pratiquer avec des sextoys. Et puis aussi qu'il y a d'autres pratiques que la pénétration. Il y a aussi, par exemple, le cunnilingus, la fellation, l'anulingus. On peut se chuchoter des mots à l'oreille, mais on peut aussi se les crier. On peut se faire des massages, on peut se faire des caresses et tout un tas d'autres choses que j'oublie là maintenant. Voilà.
Et il y avait aussi le chiffre de 13 cm, qui est la moyenne bah, d'un pénis en érection, et que c'est pas du tout ce qu'on voit dans le porno. Et voilà, et du coup, ne pas oublier que le porno, c'est du spectacle, c'est du cinéma, donc bien sûr, on sélectionne des personnes ayant des gros pénis au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc 13 cm, si vous voulez balancer un petit chiffre comme ça.
Ouais, d'un pénis en érection.
D'un pénis en érection.
Oui, quitte à se comparer aux autres pénis, autant savoir à quoi on se compare vraiment.
Exactement.
Tu voulais rajouter quoi, Matt ?
Ben, j'avais envie de rajouter que, ben, du coup, j'ai parlé de différentes pratiques. J'avais aussi envie de dire que, ben, le mieux peut-être pour savoir quelle pratique nous plaise ou quelle pratique plaise à notre partenaire ou à nos partenaires, c'est de se poser la question à soi-même et aux autres et d'en parler, de venir checker si c'est OK pour l'autre, si c'est OK pour nous. Voilà, la communication, c'est super.
Mmh, sympa.
Ah bon ?
Merci pour ce tips, Mathilde. Ben oui, c'est vrai.
Ben non, mais c'est super. Et puis, rappelons-le. On fait des listes de pratiques, mais en vrai, il y a tellement... Enfin, on est sur une infinité de choses, quoi. Moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de lécher de la chantilly entre les oreilles de mon partenaire, mais je suis sûre qu'il y a des personnes sur Terre qui meurent d'envie de faire ça. Et en fait, c'est très bien. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Et pour le coup, tant que c'est fait dans le respect et le consentement, bah, c'est un endroit où on peut explorer super loin des idées reçues, quoi.
Et oui, c'est toute la subtilité quand on s'intéresse à la norme, c'est qu'à la fois pour informer, il faut bien donner des indicateurs, mais en fait ça peut vite basculer comme ça passerait pour une norme et du coup laisser ouvert tout en informant, voilà, c'est complexe.
Et on va pouvoir continuer dans cette émission Super Tempête avec une chronique avec laquelle Merle est venue et c'est une chronique velue.
Et oui, cette semaine, ce mois-ci, je vous parle de pilosité, car j'ai des poils. Ça ne devrait pas être une grande nouvelle, puisque j'ai googlé « Tous les êtres humains ont-ils des poils ?» et la réponse a été sans appel. Oui, tous les êtres humains ont des poils, tous. Et pourtant, quand il fait chaud et que je suis en short, on dirait que c'en est une de grande nouvelle. Quoi, cette personne assise de meuf a des poils sur les jambes ? Panique dans les cerveaux. Bon, j'exagère. Fort heureusement, la plupart de mes compatriotes ont encore d'autres préoccupations que mes choix personnels en termes d'épilation. Mais pourtant, si globalement on me laisse tranquille dans mon short, il y a quand même tout un tas de personnes qui en ont vraiment quelque chose à faire de nos choix d'épilation. Et oui, car tout un tas de personnes se donnent du mal pour nous vendre des rasoirs, des bandes de cire froide, des soins en institut, du laser, des crèmes décolorantes, des épilateurs électriques et j'en passe. Et tout un tas de personnes ne se privent pas non plus pour donner leur avis sur le sujet. Parce qu'en plus des publicités qui veulent nous faire croire qu'un poil au mauvais endroit peut nous conduire au déshonneur, et ben mine de rien, j'en ai entendu des remarques à la volée pour dire que les poils, c'est dégueulasse, que ça pue, que heurk, non, une fille qui s'épile pas, moi je pourrais jamais. Et moi, en tant que petite personne dans tout ça, j'ai mis du temps à me poser des questions. Je les ai achetées, mes pinces à épiler et mes paquets de crème décolorante, celles que tu te mets sur la lèvre supérieure en priant pour que personne ne rentre dans la salle de bain à ce moment-là. Mais j'en suis revenue. Et maintenant que je me sens plutôt libérée du poids des poils, eh ben je dois dire que je n'en reviens toujours pas de l'absurdité de l'affaire. C'est évident, les normes de beauté, c'est arbitraire. Mais franchement, peut-on faire plus contre-intuitif que l'épilation ? Je veux dire, on aura beau les arracher et les arracher et les arracher encore, nos poils vont repousser, c'est leur nature, c'est leur raison d'être. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, ça peut prendre tellement de place dans nos vies. Moi, j'ai commencé à complexer sur ma pilosité quand j'étais à l'école primaire. Ma mère emmenait ma grande sœur au centre d'épilation et je bavais d'envie, persuadée que j'étais un monstre de fourrure et que la seule sacro-sainte cire chaude pouvait me faire repasser du côté des humaines dignes de ce nom. Alors autant vous dire qu'à 14, 15, 16 ans, quand le poids du regard des autres sur votre corps est tellement lourd qu'on a l'impression de se balader avec des enclumes dans son sac ISPAC, ça ne s'était pas tellement arrangé. Les poils à l'adolescence, c'était l'angoisse perpétuelle avec aucune porte de sortie. Quand il y a cours de piscine le mardi, il ne faut avoir ni de poils, ni de disgracieux boutons rouges liés à l'épilation, ni de poils incarnés dus à la repousse, ce qui nécessite une précision de calcul digne de la NASA pour déterminer le moment exact de s'épiler. Mais attention, car s'il y a une fête chez des amis le samedi soir, il serait de bon ton de n'avoir là non plus ni poils ni boutons en cas d'une possible mise à nu devant ta ou ton crush, et ainsi de suite au gré des occasions. Et tout doit y passer, bien sûr, les jambes, les genoux, l'entrejambe ou la vulve, les orteils, les aisselles, le duvet de la moustache, les sourcils, autant de zones à combattre et qui n'ont jamais la décence de se montrer coopérantes. Quand je pense à tout l'espace mental que ça m'aurait libéré à cette époque de ne plus m'inquiéter pour mes poils, j'aurais peut-être pu investir d'autres aspects de ma vie et avoir la moyenne au bac de philo. Mais j'ai traversé l'adolescence glabre et complexée, et il a fallu que je rencontre le féminisme quelques années plus tard pour enfin entendre un discours différent de la norme. Oui, c'était bel et bien possible d'arrêter de courir après une apparence de nymphe diaphane et imberbe telle la Vénus de Botticelli ou une mannequin Chanel. Oui, je pouvais ne pas m'épiler et quand même avoir de la valeur. Et surtout, oui, je pouvais trouver la force de résister à l'injonction du moindre poil et me poser la vraie question, à qui profite le crime dépilatoire ? Et oui, qui y gagne lorsque je me regarde dans le miroir et que je ne me trouve pas assez bien ? Et c'est ainsi qu'à 20 ans, j'ai d'abord appris à aimer mes aisselles poilues, puis osé arrêter de m'épiler les jambes, laisser tranquille les pauvres brins de kératine entre mes cuisses et ma vulve, et enfin passer le cap ultime à mes yeux, celui de laisser pousser les 5 poils bruns d'un centimètre chacun que j'ai aux commissures des lèvres et qui au collège m'avait valu le surnom fort original de « moustache ». Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Contrairement à certaines idées reçues, toutes les féministes ne se laissent pas pousser les poils. Et on peut choisir de ne pas s'épiler sans rien y voir de politique. C'est très bien comme ça. Cependant, les luttes féministes ayant la fâcheuse tendance à refuser les injonctions néfastes et sexistes, il est possible qu'elles se mêlent de ce qu'il se passe autour de nos follicules pileux. Car si je défends aujourd'hui avec tant de passion le droit à ne pas s'épiler, ce n'est pas parce que personnellement j'ai appris à trouver de la beauté dans des chevilles touffues et que je voudrais en voir sous toutes les jupes. C'est parce que cet exemple a beau n'en être qu'une goutte d'eau, il fait bel et bien partie de l'océan des oppressions et du contrôle de nos corps. Moi, ça me met en rage qu'on nous fasse nous sentir obligés de payer des dizaines, voire des centaines d'euros pour une activité qui nous fait mal. Et oui, spoiler alerte, s'arracher des poils du corps, c'est en fait douloureux. Qu'il faut réitérer encore et encore, qui peut nous créer des complexes débilitants, et tout ça dans quel but ? Certainement pas celui de nous faire nous sentir bien dans nos corps. Car imaginez comme nous serions fortes si nous avions confiance en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on s'est dit tout ça ? Eh bien, voici mes suggestions. Faisons attention à nos paroles, parce qu'une phrase blessante et injuste sur notre apparence peut rester gravée dans notre esprit pour des années. Soyons indulgents, indulgentes avec nous-mêmes et les autres, parce que se soustraire à une injonction qui a le poids de toute une industrie, c'est franchement pas facile. Et enfin, donnons-nous de la force les uns les unes les autres pour cette rébellion, parce que quel que soit notre choix au final, du ticket de métro au poil des selles violets, plus on verra de diversité dans la pilosité et mieux nous nous en porterons.
Yeah, merci Liam pour cette super chronique velue. Oui, moi je suis censée envoyer du son juste après ça. Alors, c'est en plus une chanson que tu nous as soumise, Merle. Chanson triste de l'artiste Yoa, c'est ça ?
Tout à fait.
Parfois le soir je me sens seule. Je contrôle plus ce qu'il y a dans ma tête. Je vais sur porn pour me calmer. Une fois, 10 fois jusqu'à en pleurer. Ce que je préfère, c'est les latinas. Ouais, et celles qui sucent aussi loin que moi. Toutes celles qu'ils font en aimant ça. Celles qui, quand tu viens, te regardent droit. Je t'appelle, tu réponds pas. Non, t'es encore allé voir ailleurs. Ouais, j'ai dû crier au mauvais endroit. Quand on s'embrassait tout à l'heure. Parfois le soir je me sens seule. Je contrôle Je traîne sur l'ordi pour me calmer. J'emmerde les films de Bertrand Blier. Tout ce que j'aime, c'est les latinas.
Vous êtes toujours sur l'émission Super Tempête sur Radio Zinféréol 94.2. Et on va continuer la boîte à questions. C'est la dernière question qu'on va traiter ce soir sur la boîte à questions. Et la question, c'est quoi le, ouvrez les guillemets, bandage, fermez les guillemets, pour les filles? Alors moi, cette question, je l'ai compris comme, j'ai imaginé que la question c'était, ah, les garçons ils bandent quand ils sont excités, et c'est quoi le pendant de bander pour les filles? J'espère que j'ai bien compris. Sinon vous pouvez nous écrire pour me dire que je suis à côté de la plaque. Bon, en tout cas je vais répondre à cette question. Pour les personnes qui ont une vulve, c'est un peu le même système que pour le pénis. À l'excitation, le clitoris rentre en érection le clitoris, du coup, il y a une grande partie qui est à l'intérieur du corps, qui est cachée, mais il y a une partie externe qui s'appelle le gland, qui est dans le haut de la vulve. En gros, sur une personne qui serait debout, dans le bas de la vulve, il y a l'entrée du vagin. Un peu plus haut, il y a le méa urinaire, l'endroit où on fait pipi. Et encore plus haut, il y a le gland du clitoris. Et donc, cette partie-là qu'on voit, qui est externe, va se durcir et grossir quand la personne est excitée. Donc il va y avoir ça comme fait visuel. C'est moins évident que sur un pénis, mais c'est quand même tout à fait visible. Et puis après, la partie qui est interne du clitoris, elle va aussi rentrer en érection, donc grossir et se durcir. Et même si on la voit pas, cette partie, elle est tellement proche de la vulve, des lèvres, que ça va faire gonfler en fait tout le sexe. Donc on va voir aussi le sexe se gonfler, toute la vulve se gonfler avec l'excitation. Voilà, après il y a d'autres choses qui se modifient aussi à l'excitation. Par exemple, il peut y avoir, c'est pas obligatoire mais ça arrive, il peut y avoir ce qu'on appelle l'éjaculation de la vulve. C'est la sécrétion d'un liquide qui s'appelle la cuprine, qui est sécrétée par les glandes anarca, qui sont proches du méa urinaire. Il peut y avoir au moment de l'orgasme, mais aussi avant ou après, du liquide qui est sécrété par ces glandes. Il y a aussi un autre phénomène sur la vulve, c'est qu'à l'excitation, il y a aussi de la sécrétion de ce qu'on appelle la cyprine. On appelle ça aussi la mouille. C'est un liquide qui est sécrété par des glandes, c'est des glandes qui s'appellent les glandes Lucie et Betsy, qui sont à côté de l'entrée du vagin. Et ça a plusieurs fonctions, la sécrétion de ce liquide, mais en tout cas dans les rapports sexuels, la fonction que ça a, c'est de venir lubrifier pour que les rapports, que ce soit des caresses ou de la pénétration, soient plus agréables. Ça dépend des personnes, en fonction du cycle aussi, du moment du cycle, de la quantité de cette cyprine qui va être sécrétée. Et souvent, ça peut arriver que ce soit pas assez pour que les rapports soient confortables. Du coup, je vous invite à utiliser du lubrifiant si vous sentez que c'est pas assez. Et ça me donne envie aussi de dire du coup que quand on fait du sexe, c'est plutôt un endroit de plaisir, en tout cas pas un endroit de douleur, et que faut pas hésiter si on a mal, parce que ça peut arriver à la pénétration ou lors de caresses pour des personnes qui ont des vulves, mais aussi pour des personnes qui ont des pénis, que ça fasse mal. J'ai envie de vous dire, hésitez pas à vous arrêter, c'est vraiment censé être de l'échange de plaisir et pas de douleur. Et du coup, ben voilà, si on a mal, on peut s'arrêter, en parler à son ou sa partenaire, peut-être adapter la pratique pour que ça fasse plus mal, ou s'arrêter, faire une pause, ou s'arrêter complètement et reprendre le lendemain ou un autre jour. En tout cas, voilà, de penser que, enfin, de garder en tête que le sexe est là pour se donner du plaisir et pas de la douleur.
Merci Matt. Je suis trop content qu'il y ait cette question qui soit posée, parce que c'est vrai que je trouve que ça vient questionner une image qu'on a de la vulve super passive presque. Bon, c'est bizarre de dire passive, c'est un endroit du corps, mais c'est sûr qu'on voit bien l'érection et tout. Et de l'autre côté, on a l'impression, et encore d'ailleurs, même quand on parle de l'érection, bah souvent on pense pas au, comment ça s'appelle, le truc pré-éjaculatoire là, enfin qui a aussi un liquide de avec une fonction de lubrification qui est sécrétée par le pénis, qui est là aussi. En tout cas, pour la vulve, j'ai l'impression on voit ce truc de cyprine, de mouille, et même des fois c'est un peu recherché, genre ah c'est trop bien, elle est toute mouillée machin, mais en fait on se dit pas trop, mais que bah ouais, il se passe tout ça quoi. Il y a l'érection du clitoris, on peut vraiment voir les lèvres se gonfler, tout ça, et en fait bah c'est super hein. Je vous encourage à regarder votre vulve ou celle de votre partenaire quand vous faites du sexe. C'est vrai que bah il se passe plein de trucs quoi, c'est pas juste là ça mouille et ça attend. Et puis d'ailleurs, il y a plein d'autres endroits du corps qui réagissent. Je sais pas, les tétons peuvent changer de forme, changer de couleur. Enfin, ça se voit vraiment physiquement, quoi, le plaisir.
Et ben moi, ça me fait penser à la question, peut-être à redéfinir ce qu'on appelle femme fontaine. Si j'ai bien compris dans ta description, c'est ce que tu mentionnes autour de la cuprine, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai introduit ce mot cuprine. C'est assez peu connu. On appelle plutôt ça l'éjaculation. Bon, les gens disent l'éjaculation féminine souvent, mais moi je préfère dire l'éjaculation de la vulve, parce qu'on a vu en début d'émission que la vulve n'était pas liée forcément au féminin. Mais du coup, ouais, l'éjaculation de la vulve, ce liquide-là, techniquement il s'appelle la cuprine, mais il n'est pas très connu, comme plein de choses autour de la vulve, mais du coup j'avais envie d'introduire ce mot. Mais oui, c'est ça, en tout cas, ce qu'on appelle les femmes fontaines, c'est ça, ce liquide, c'est la cuprine. Et ça peut... en effet, des assez grandes quantités, en tout cas beaucoup plus que par exemple du sperme ou de la cyprine, ça peut aller jusqu'à une tasse.
Ah oui, une tasse, bah non, c'est beaucoup plus que l'éjaculation d'un pénis.
Ouais, carrément. Bah, la moyenne de l'éjaculation d'un pénis en quantité, c'est entre 2 et 6 millilitres. Et du coup, ça correspond après à une cuillère à café. Donc ouais, c'est carrément beaucoup plus que l'éjaculation d'un pénis.
Et puis, cette appellation femme fontaine, elle est un peu... Bon, déjà, elle n'est pas très valorisante, mais aussi, elle sous-entend un peu qu'il y a des personnes qui peuvent accéder à ça et d'autres personnes qui ne peuvent pas accéder à ça. Alors, en l'occurrence, tous les sexes sont différents, mais il y a quand même une grande majorité des vulves qui ont ces glandes qui peuvent sécréter ce liquide. Donc, il n'y a pas des personnes élues qui ont la capacité magique d'éjaculer et d'autres non. C'est vraiment, une question de comment ton corps y réagit, qu'est-ce que tu lui fais, etc. quoi. Et si ça s'appelle la cuprine et pas la cyprine, c'est juste que c'est sécrété par des glandes différentes.
Mmh. Oui, et aussi que ça n'a pas la même texture. C'est beaucoup plus liquide, la cuprine. La cyprine, c'est plus visqueux parce que ça a un but de lubrification. Du coup, c'est plus visqueux, quoi.
Et bah, ça me fait penser à un documentaire sur le plaisir qui fait écho à Femme Fontaine, entre guillemets. Ça s'appelle Eau Profonde, et c'est hyper poétique et c'est pas du tout dans un truc de performance. Et je vous le recommande vraiment parce qu'il est... Enfin bref, il y a plein de coquillages partout, c'est super. Eau Profonde, bon voilà.
Ok, et ben on en a fini avec nos questions de la boîte à questions. Voilà, on a répondu à ces 4 questions ce mois-ci et c'était super. Merci beaucoup de les avoir posées. On va passer au dernier segment de notre émission. C'est un segment sur l'actualité que Laure va nous présenter. On t'écoute, Laure.
Oui, alors dans cette émission de Super Tempête, on a envie de vous parler sur un ton plutôt joyeux et enthousiaste du champ des possibles en matière de vie affective et sexuelle. Et si on peut se permettre de le faire de cette façon, c'est bien que dans d'autres espaces complémentaires, y a des luttes en cours qui font avancer nos droits. Et on s'était dit qu'on pourrait faire un petit rappel, un petit relevé d'infos des dernières actualités. Alors il faut savoir qu'on enregistre cette émission fin novembre 2022 et que a priori, là vous l'entendez au mois de janvier. Alors il y aura un petit décalage dans le temps, mais bon, y a des choses quand même qui sont posées, quoi, qui sont là. Alors, première petite actu, c'est une rumeur. Il paraît que l'Allemagne prévoit d'inscrire les droits LGBTQIA+ dans sa constitution. Alors moi, je me demande à quand notre tour. De notre côté, en France, quand même, le 24 novembre dernier, sachez que l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi visant à constitutionnaliser l'IVG. En tout cas, on doit la réussite de ce projet à des femmes politiques que j'avais envie de nommer, qui viennent de différents bords, de la gauche à la droite. Voilà, il faut quand même le dire. Donc, on a Mélanie Vogel, Mathilde Panot et Aurore Berger. Voilà, c'est une étape importante dans la protection du droit fondamental à l'interruption de grossesse, alors qu'en ce moment, aux États-Unis ou en Pologne, on s'en éloigne un petit peu. Sinon, là, on est en mois de novembre et du coup, le 19 novembre, à l'appel du collectif féministe Nous Toutes, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans toute la France pour dénoncer notamment les insuffisances du gouvernement en matière de lutte contre les violences de genre. Petite info, dans le département des Hauts-de-Seine, pour lutter contre la précarité menstruelle, le département a distribué 25 000 culottes menstruelles dans ses collèges. Voilà, je trouvais ça assez cocasse. Et cette démarche rappelait en même temps qu'en France, 2 millions de personnes menstruées ne peuvent pas s'acheter des protections. On passe côté cinéma. Le film She Said vient de sortir. C'est un film de Maria Shredder qui retrace l'enquête du New York Times qui a fait éclater l'affaire Harvey Weinstein en 2017. On revient un peu aux sources de Me Too et le film, apparemment, je ne l'ai pas vu, révèle bien la stratégie du producteur pour couvrir 3 décennies d'abus et de crimes sexuels. Donc moi, je pense que je suis assez curieuse d'aller le voir, mais je ne sais pas si je vous le recommande vraiment, quoi. Mais bon, en tout cas, il est là, il vient retracer quand même le chemin de cette lutte quand même et de revenir aux sources. Je trouve ça toujours assez intéressant de documenter ça. Et dernière petite info bonus qui a égayé ma recherche, je l'ai trouvée sur Simone Media. L'intitulé de l'info, c'était « Deux queens se sont mariées à l'EHPAD après 45 ans d'amour caché ». En fait, c'est dans un EHPAD où il y a deux femmes qui ont compris que, en fait, on pouvait, lors d'un repas, qu'il y avait le mariage gay, ça existait. Et elles sont venues demander si c'était possible de le faire dans la vraie vie. Elles pensaient que c'était que à la télévision, que des personnes du même sexe pouvaient se marier. Et on leur a dit que c'était possible. Et du coup, quelques minutes plus tard, l'une des deux femmes, André, a fait sa demande à Liliane devant tout le monde. Et du coup, elles ont été mariées à l'EHPAD du Val de Lescaut.
C'est vraiment trop mimi.
Voilà, c'en est tout pour cette fois-ci. Les prochaines fois, peut-être qu'il y aura des choses un peu plus locales. Bon, voilà. Affaire à suivre.
Merci Laure.
Merci.
Oui, là on vient de faire un petit horizon rapide de quelques normes et de ce que ça fait. Voilà, est-ce que vous, ça vous évoque des choses en particulier sur lesquelles vous avez envie de rebondir avant qu'on commence à amorcer la fin de l'émission ?
Bon, quand on a commencé à parler de l'émission et de ce thème, moi ça m'a fait un truc de... Pour moi c'est... Ça nous bride un peu toutes ces normes, quoi. J'ai l'impression que ça nous rend moins créatifs et créatives. Il y a un truc de... de vouloir rentrer dans la norme pour être entre guillemets normal, enfin il y a un truc comme ça qui moi me fait peur. Et en même temps, en discutant, toi Merle, tu disais que la norme ça a aussi un intérêt, du coup
après c'est tout, il y a des limites partout, mais c'est, comme on avait choisi ce thème d'émission, moi j'en ai parlé avec mon frère qui travaille dans le milieu médical et il avait ce regard de dire en fait dans le milieu médical tout ce qui est pour définir ce qui est de la pathologie, on a besoin de définir ce qui est de la norme, quoi. C'est aussi ça par exemple qui permet de faire des statistiques. Il y aurait pas de statistiques sans fondement un peu chiffré de qu'est-ce qu'on considère comme une chose A, qu'est-ce qu'on considère comme une chose B. Et les statistiques, c'est aussi quelque chose qui peut nous servir. C'est aussi important de savoir qu'on est malade. Pour avoir une meilleure prise en charge dans le milieu médical des personnes trans, par exemple, il faut désespérément des statistiques qui montrent qu'il n'y a pas une bonne prise en charge. Et tout ça, c'est lié, quoi. Voilà. Après, en l'occurrence, il me disait aussi qu'il passait beaucoup de temps ensuite dans sa pratique de médecin à déconstruire ces normes qu'on lui avait apprises de manière peut-être un peu trop figée, quoi, justement, et qu'il laissait pas de la place à la mosaïque infinie que sont les êtres humains.
Oui, moi, ça me faisait, en préparant l'émission, ce mot de norme. Et je trouve qu'il est très bien intégré dans un mot qu'on entend un peu plus, mais qu'on parle de plus en plus de l'hétéronormativité. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme, que ce mot existe, en fait, pour pouvoir juste ouvrir le champ des possibles. Et c'est bien qu'il y a une norme qui est là, ça ne veut pas dire... sur cet exemple-là, que c'est nul d'être hétéro, mais c'est reconnaître que c'est une norme et du coup tous les fils qu'on peut en tirer derrière, quoi.
Ouais, reconnaître que c'est une norme et que du coup nos imaginaires ils sont très liés à ça, quoi. Mm-hmm. Et du coup c'est compliqué aussi de se créer des nouveaux imaginaires parce qu'on est complètement rempli d'images cis hétéronormées, du coup.
Oui, et ça fait que ça crée plein de souffrances de se sentir en dehors de la norme, alors que en fait, ça pourrait être plus large, ce qui est considéré comme normal, ça pourrait être beaucoup plus de choses, quoi.
Moi, j'espère que des personnes vont entendre, des personnes assez jeunes et en construction peuvent entendre ce genre de propos, mais peut-être qu'on peut les entendre beaucoup plus tard et que ça fasse des tilts, quoi. Dans ces histoires d'imaginaire, ça me fait penser à ça.
Ouais, en tout cas, voir l'importance que ça a, nos imaginaires, dans nos relations, et du coup d'aller chercher, parce que bon, quand même, on vit une époque où il y a quand même des représentations, il y a des super séries, des super films, alors il y en a beaucoup trop peu, à mon sens, mais il y en a quand même, et du coup, de pas hésiter à aller fouiner, à demander des conseils pour aller voir des représentations qui nous ressemblent plus ou qui sont plus ce qu'on aimerait tendre à faire, à avoir dans nos relations. Parce que, mine de rien, ce qu'on voit dans les œuvres culturelles, c'est des trucs qu'on finit par désirer très fort, parce que c'est un peu ça les mécanismes, quoi. On voit quelque chose et on a envie d'être ces personnes, quoi.
Et je sais pas si j'aurais les bons mots, mais j'adore... je suis hyper reconnaissante de la personne qui a conceptualisé le male gaze, justement pour pouvoir définir en quoi toute notre paysage culturel était juste avec ce regard d'homme sur la femme très érotisée, quoi. Et voilà, et ça a été pour moi un vrai déclic de dingue, en fait. Et aujourd'hui, je sais quand je regarde quelque chose qui est normé ou pas... Ça m'empêche pas de le regarder, mais au moins, je sais que ça se situe à cet endroit-là.
Et ouais, vivement qu'on ne perde pas autant de temps à aller chercher pour trouver des œuvres qui ne sont pas du male gaze, parce qu'elles sont si rares, mais rendez-nous notre temps, s'il vous plaît.
Et je sais plus qui parmi vous, quand on préparait l'émission, a décrit dans le film Portrait de la jeune fille en feu, il y a une scène érotique incroyable.
La scène du doigt dans les selles.
Quelqu'un veut la raconter ?
Oui, oui. oui, d'accord. C'est une scène où deux femmes font du sexe ensemble. Ce qu'on voit, c'est clairement la pénétration de plusieurs doigts dans une aisselle. Et c'est extrêmement érotique, c'est magnifique comme scène.
Comme quoi ?
Entre-temps, j'ai eu le temps de trouver celle qui a proposé le concept de male gaze, c'est Laura Mulvey, et ça date de 1975. Suite, non ?
Oui, vivement la suite, on se retrouve le mois prochain avec une émission, on ne sait pas, peut-être on va changer d'avis, mais ce sera sûrement sur avec qui on fait du sexe.
Si vous avez des retours sur notre émission, des questions... des précisions que vous souhaiteriez apporter, des sujets que vous aimeriez voir abordés ou quoi ou qu'est-ce, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous ferait même très plaisir. Notre adresse mail, c'est contact@lapanoplie.org. Contact au singulier, @lapanoplie, tout collé, .org.
Et nous sommes... Là, vous venez d'écouter la première émission de bah, de cette longue série d'émissions, on espère. Et c'était un peu un baptême quand même d'enregistrement. On est dans les locaux de Radio Saint-Féréol au dernier étage. Il fait nuit et on a bien pris le temps d'enregistrer cette émission. Alors voilà, c'était super. Et bah, merci à Radio Saint-Fé quand même de pouvoir nous permettre de prendre la parole, de parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Et ben on vous laisse en musique avec une version orchestre de Taren de Angel. On se voit bientôt, le mois prochain.
Le mois prochain, bisous.
Salut.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais. Même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Acceptera que le ciel t'aime un peu plus fort. Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît.